Dites-nous tous remercier Dominique de son accueil parce qu'elle s'en va.
Merci Dominique.
De ton accueil parce que tu t'en vas.
Bienvenue dans Il faut qu'on parle, le podcast qui parle des séries et de tout ce qu'elles nous inspirent. Les super-héros sont partout, ils sont au cinéma, ils sont aussi à la télé et en grand nombre et dans des formes multiples et variées. On a donc décidé d'en parler d'abord parce que j'adore les super-héros et puis surtout parce qu'il fallait parler de Jessica Jones, qui est quand même un énorme coup de cœur pour moi et pour plein d'autres. Alors, pour parler super-héros, je n'allais pas parler avec n'importe qui. J'ai donc mon copilote préféré, Superdome.
Bonjour. Super bonjour.
Et nous avons aussi avec nous Dark Léa. Bonjour Léa.
Bonjour Yael.
Tu vois pourquoi je t'ai pas dit la blague avant? C'est pour que tu rigoles. Et moi, je suis, je sais pas, nerdy Yael ou geeky Yael. En tout cas,
super geekette.
Super geekette. Merci. Non, j'aime pas geekette. Super geek, je préfère. Okay. Captain Geek. Je suis Captain Geek.
Ok, ça va finir General Nerd.
C'est ça, c'est exactement ça. La raison pour laquelle Léa est avec nous n'est pas anodine. Léa, c'est la personne avec qui je préfère aller voir les films de super-héros, en tout cas quand je suis à Paris. Malheureusement, c'est pas toujours, on ne peut pas tous les voir ensemble, mais on a vu un certain paquet ensemble, des très bons et des très mauvais.
Oh oui.
On a vu Green Lantern ensemble, c'est juste pour vous dire. Et on a la bonne idée de le voir juste avant Captain America, ce qui nous a sauvé la vie.
Et de ne pas faire le contraire, Captain America puis Green Lantern.
Ah oui, ça peut être violent.
Ouais, ouais, je te pense. Mm.
Donc comme vous voyez, on est à fond sur les super-héros. En tout cas, quand c'est bien. Hein, c'est ça?
Ouais.
Alors, Léa n'est pas là par hasard. Moi, oui, visiblement.
Et toi, t'es toujours là. Enfin, presque
non, toujours.
Sauf quand t'es englouti par les sapins de Noël. Mais sinon, c'est en fait, je t'ai dit copilote, mais pardon, c'est mon sidekick, Superdome. Captain Geek et son sidekick, Superdome. Et Dark Léa, qui de temps en temps.
Je n'incite pas les gens à faire des dessins sur Tumblr pour les représenter, s'il vous plaît.
Donc, dans la joie et la bonne humeur, nous allons donc parler super-héros. Je voudrais commencer juste par préciser des petites choses pour nos éditeurs et pour nous-mêmes. Les super-héros, il y a plusieurs façons de les découvrir. La première, c'est les comics. Est-ce que l'un d'entre vous est un fan et surtout a été lecteur de comics?
Oui.
Voilà, c'était un peu une perche. Moi, je n'ai pas lu de comics avant il y a 10 ans peut-être pour la première fois. Mais toi, par contre, Dom...
Moi, ça a été par période. J'ai eu, comme beaucoup de gens de mon âge, ma porte d'entrée vers les comics, c'était la publication Strange. Qui était vendu en papeterie, donc qui regroupait plusieurs titres Marvel, donc Spider-Man, Namor.
Je sais même pas ce que c'est.
C'est pas terrible, hein, Namor. Fantastic Four, enfin plein de gros titres, Iron Man, évidemment. Et c'était vraiment quelque chose que j'adorais tous les mois. J'attendais impatiemment que Strange arrive et j'étais vraiment inconsolable le jour où j'arrivais plus à trouver de Strange en papeterie. J'ai d'abord blâmé le marchand de journaux qui s'en est pris plein sa tronche pour finir par me rendre compte qu'en fait la publication s'était arrêtée tout simplement. Et après j'ai une deuxième période fin des années 90 où je suis allé chercher des comics en version originale. Donc chez les revendeurs parisiens, où là je suis plus retombé plutôt chez DC que chez Marvel. Donc j'ai vraiment beaucoup consommé Batman à ce moment-là parce que c'était un personnage que j'adorais.
C'était la grande phase Batman, non?
La phase Batman post Frank Miller, donc retravail du personnage beaucoup plus sombre, tout ça un peu trop maintenant avec le recul à mon goût, mais. Et du coup, je suis vraiment tombé dans le truc pour me rendre compte à quel point c'est tentaculaire. En fait, le comics, c'est pas juste ce truc de petit garçon qui veut rester dans l'univers de l'enfance. C'est aussi un truc très difficile d'accès, juste d'un point de vue logistique. C'est par quel numéro commencer, qu'est-ce qu'on lit en premier, comment on le lit, parce qu'il y a des numéros qui se croisent avec d'autres numéros. On a peut-être parfois la première partie ou la deuxième partie d'un autre truc. Moi, je me mets à la place d'une personne lambda qui rentre dans un endroit comme ça, à part les trade paperbacks qui joignent plusieurs histoires entre elles qui sont relativement chères. Se retrouver devant le mur de comics et pas savoir où t'en es, c'est juste impossible, quoi.
Moi, c'est exactement justement cette expérience que j'en ai où j'ai jamais été très comics en étant plus jeune. Donc, j'aime beaucoup cet esprit de tiroir, en fait, d'univers à tiroir où. et comme tu disais, cet univers tentaculaire, mais bah, au bout d'un moment, ouais, quand t'as pas...
Mais elle est où la porte d'entrée,
quoi. Voilà, comment est-ce que tu fais, par quoi tu commences, et puis si tu commences par là, bah, malgré tout, t'as 15 ans en arrière que tu n'as pas suivi, donc...
Ça donc, encore, c'est les univers ont tendance à se rebooter assez souvent.
Oui, mais quand t'as pas cette connaissance-là,
tu sais pas, bien sûr, bah, évidemment.
T'as l'impression qu'il faut que tu rattrapes 50 ans d'histoire.
Mais juste.
Et moi, j'ai essayé avec Wikipédia, hein, à une époque où j'ai commencé à m'intéresser.
C'est super compliqué, mais même
j'ai regardé avec Wikipédia.
Et j'ai regardé Wikipédia, j'ai fait non, mais en fait, ça m'aide pas du tout. Non, je suis juste beaucoup plus confusée que.
Bon. Je me souviens à l'époque, j'avais commencé en prenant la revue numéro 1 de Batman à l'époque, qui s'appelait Detective Comics, qui était la première de Batman. J'ai commencé par là, donc oui, mais alors du coup, cette histoire-là, elle est en crossover avec cette. Donc je prenais Detective Comics, puis la revue Batman, qui s'appelle juste Batman, mais il y avait aussi la revue Legends of the Dark Knight, qui racontait des petites histoires sur plusieurs numéros de Batman. Oui, mais le truc, c'est qu'en fait, ça arrive en crossover avec un autre truc. Ah bah tiens, il y a des publications Robin aussi, puis il y a Catwoman, et au final, tu te retrouves avec. J'ai commencé à dépenser 15 euros par mois, je finissais à 100 euros. À un moment, j'ai dit, bon, ben, en fait, j'ai pas les moyens, je vais arrêter là. Mais c'est super compliqué de suivre cet univers-là. Mais il y a des choses fascinantes qui viennent directement des comics.
Moi, mon entrée, j'ai une consommation naissante des comics qui date de... Ça fait un peu plus de 10 ans qui a commencé, vous le devinerez tous, par Joss Whedon.
Non.
Qui a écrit une série d'Astonishing X-Men début des années 2000 et que en fait j'ai voulu le lire, et c'est rigolo parce que je lisais déjà les comics de Buffy qui venaient de commencer, et en fait j'avais beaucoup de mal à entrer dans le mode narratif. Et en fait, en lisant les Astonishing X-Men, il y avait comme un truc qui s'est mis en place. Tout d'un coup, j'ai compris comment ça fonctionnait, et en fait le truc, si j'ai bien, enfin moi en tout cas, ce que j'ai commencé à comprendre, c'est que les comics sont encore plus épisodiques que les séries. Et que du coup, faut pas être surpris quand tout d'un coup, il te relance une histoire sur 3 issues. Que dans le sein d'une histoire, t'as un petit arc qui est sur 2-3 issues. Et que moi, pour moi, ce truc était... En fait, c'était... Moi, c'est un truc que je comprenais pas dans Buffy. Pourquoi tout d'un coup, il changeait de sujet. Ah tiens, il y a un nouveau méchant. Ah tiens, il se passe quelque chose. Et en fait, ça fait partie du mode narratif traditionnel. Hein. Bon, après, j'ai lu Rising Star. C'est ça, on est... Le comics de Straczynski. Un des co-créateurs de Sense8, qui est donc le créateur de Babylon 5, qui est un truc qu'on a dit quand Heroes a commencé, tout le monde a dit, ah, mais en fait,
c'est Rising Star.
C'est voilà. Donc j'ai découvert ça. Donc, ça pour le coup, c'est 5 issues, enfin, c'est 5 bouquins. Donc, on est quelque chose de limité. Et entre temps, j'ai goûté à plein de choses ces dernières années, parce qu'en fait, il y a plein de reboots effectivement récents. Et notamment, en fait, il y a un couple qui a écrit, dont on a déjà parlé, un mec qui a écrit une nouvelle version de Hawkeye et sa nana qui a réinventé le Captain Marvel. Et en fait, ça, j'ai commencé, du coup, cela. Et il n'y a pas besoin vraiment de savoir les autres trucs. En plus, ils sont autour des Avengers, donc avec les films Marvel pour lesquels je me suis passionnée, je commence à avoir un tout petit peu d'informations qui me permettent de m'en sortir. Bien que c'est seulement récemment que j'ai compris que la brune dans Hawkeye, c'était Jessica Jones. Et quand il appelle mais Jess, ma meilleure amie Jess, c'était là, mais c'est qui cette meuf? Et là, je dis, ah, mais c'était Jessica Jones. Donc il y a des trucs qui se recoupent. J'ai aussi lu quelques issues de Squirrel Girl, ce que je vous conseille parce que c'est à mourir de rire. C'est très récent aussi, le reboot, et apparemment quand dans les bureaux de Marvel ils ont annoncé qu'ils allaient faire Squirrel Girl, il y a eu un tonnerre d'applaudissements parce qu'apparemment c'est un de ces personnages très étranges que tout le monde aime beaucoup. Les deux premiers issues, notamment le moment où elle pique un suit de Iron Man et qu'il lui répond sur Twitter, t'es gentil Squirrel Girl, mais t'arrêtes de taper sur des méchants hyper dangereux avec mon suit, et après il se retourne contre moi. Et le fait même qu'il se parle sur Twitter, il y avait quelque chose de magique. Mais c'est Miss Marvel, le nouveau Miss Marvel, sur une nana d'origine pakistanaise qui prend le rôle de Miss Marvel dans l'univers qui existe depuis 2 ans apparemment. Et ce truc-là, j'en entends que du bien. Et en plus, elle est musulmane. Et il y a toute une question sur une famille traditionnelle musulmane et son rôle de super-héros. En plus, la première critique que j'ai entendue, c'était sur Pop Culture Happy Hour, où quelqu'un dit « Ça me fait beaucoup penser à Buffy !» Donc je dis « Ok, c'est vendu !» Donc voilà, il y a tout un truc où je suis vraiment en début de découverte de comment on peut lire les comics. J'ai un peu lu iZombie, je continue à lire Buffy et Angel, même si toujours un peu de retard. Parce qu'en fait, c'est quand même autre chose que la série. Et du coup, Mais ça fait peur parce que j'ai trop de séries et de podcasts et de musique et de. Et je suis là, mais j'ai des bouquins que je veux lire et que j'ai pas le temps de lire. Et du coup, je suis là, mais comment je peux faire rentrer toute cette culture populaire ?
Il y a une problématique importante avec le comics. C'est, finalement, c'est un objet qui coûte relativement cher pour le temps qu'on a dans les mains. Un comics à lire, c'est peut-être 7-8 minutes et c'est à peu près 3 $, enfin 3-4 euros. Donc ça revient un petit peu cher comme passion. Après, moi, si je peux conseiller, c'est essayer de furter sur Internet. Si, par exemple, vous cherchez les X-Men ou Iron Man, vous tapez sur le moteur de recherche et best run ou meilleure période, et vous allez avoir plusieurs sites d'agrégation qui font une sorte de liste des meilleurs moments, des meilleures périodes de tel ou tel héros. Et ce qui vous permet de vous baser plus sur 7-8 numéros qui suivent, qui racontent cette histoire-là. Et ça, c'est une histoire plus ou moins bouclée. Et ça vous permet d'avoir un récit complet, comme par exemple la série Extremis pour Iron Man, qui a été vaguement adaptée pour Iron Man 3. C'est pas tout à fait, c'est pas la même histoire, mais c'est le même principe au départ. Donc, moi, si je peux vous conseiller, c'est ça. C'est plutôt commencer par là. Mais après. Si vous prenez goût, c'est un peu un doigt dans l'engrenage. C'est que derrière, vous achetez avant, vous achetez après.
Mais malgré tout, c'est un bon conseil parce que moi, c'est vrai que finalement, je me suis mis au super-héros par les films. Bien sûr. C'était Batman dans un premier temps avec les versions de Tim Burton. Bon, après un énorme guilty pleasure pour Batman Forever, mais voilà.
Quelle horreur.
Je sais, mais malgré tout.
Il y a pire, mais quelle horreur déjà.
Attends, le Forever d'ailleurs, c'est le.
C'est Batman et Robin, je crois, c'est dont tu parles. Tu parles celui avec George Clooney ?
Non, je parle de celui avec Val Kilmer.
Donc ça, c'est Batman Forever.
Voilà, donc c'est que bien Batman Forever qui est un énorme
Batman et Robin, c'est un nanar absolu, hein, soyons clairs.
Non, mais il y a Arnold Schwarzenegger avec des chaussons en nounours.
Ouais. C'est un grand. Je crois que j'ai jeté un froid.
Mais donc voilà, pour moi, ça a été le premier contact avec les super-héros. Et ensuite, ça a été par contre, au début des années 2000, ça a été le deuxième X-Men où j'ai eu une révélation sur d'une part les super-héros, mais aussi les films, les gros blockbusters américains, où je me suis rendu compte que finalement, les gros blockbusters américains pouvaient être de très bons films.
Oui, tout à fait. Donc, et le deuxième X-Men est une vraie baffe. Quoi,
parce que
c'est une réussite incroyable.
C'est un chef-d'œuvre à tellement de niveaux. Donc, pour moi, ça reste mon entrée d'une part dans le monde des super-héros, mais aussi dans les gros blockbusters américains et dans la pop culture américaine également.
Et de toute façon, ça a été un vrai crash test, le deuxième X-Men, parce qu'il a prouvé à tout le monde que les films de super-héros pouvaient être à la fois réussis et profitables.
Pour avoir rencontré Sean Ashmore il y a quelques mois...
Ça va, le name-dropping.
Je peux vous dire qu'il est tout à fait d'accord avec nous. Et non, mais surtout que quand pendant le truc, j'ai dit à la salle, moi, c'est le premier gros truc de super-héros, vous aussi, et toute deux tiers de la salle ont fait « Ouais !» Donc
c'est un moment hyper important.
Le meilleur conseil, je suis désolée de dire que c'est un meilleur conseil, mais le meilleur conseil que je te donnerais et que j'ai suivi, c'est de trouver un bon magasin de comics.
Ouais.
Moi, j'adore Pulps.
Oui, ils sont très très bien.
J'adore Pulps. En plus, ils m'ont gardé des comics que je n'avais pas encore achetés, que je l'avais fait réserver pendant hyper longtemps. Ils sont hyper cool, et même si je pense qu'ils ne m'aiment plus maintenant. Mais en tout cas, moi, je les aime toujours.
Conseils.
Et ils sont d'excellents conseils. Mmh. Et moi, j'y suis allée la première fois. Ils m'ont dit, alors, Rising Star, t'aimes bien ? Enfin, ça t'intéresse ? Ok. Je dis, qu'est-ce qui sont les autres trucs que je dois lire ? Il dit, c'était il y a des années, il me dit, The Walking Dead et Why the Last Man. Mmh. Et c'est les deux trucs dont on entend parler partout. Il paraît aussi que Saga, d'ailleurs, c'est un autre comics
Saga, c'est très, très bien.
Absolument.
C'est vraiment très, très bien.
Et Juliette fait des signes, elle fait semblant de ne pas être là, mais elle fait des signes comme quoi elle adore Saga.
Ouais, ouais.
Et donc, parlez à votre. Vraiment, allez dans un comic book store et parlez à quelqu'un.
Même,
moi, j'ai les Runaways comme ça.
Mais
j'ai...
même chez Album, qui est une grosse machine, bon, on peut
aller
tomber sur
Pulps.
Quelqu'un. Oui, mais oui.
Parce que c'est une plus petite machine, elle a plus besoin.
C'est un peu la Fnac, c'est un peu la Fnac du comics. Donc,
Album, tu veux dire.
Album, oui, bien sûr. Mais ils sont pas non plus.
Non,
c'est
ils
vrai
sont très gentils.
C'est plus proche. Pulp, c'est plus proche. Après, Album, c'est si vous trouvez pas chez Pulp, c'est que vous savez ce que vous voulez, limite.
Mais chez Pulp, ils peuvent vous les commander. Mais c'est juste que Pulp, en fait, c'est plus petit. Donc, ils ont un tout petit peu plus besoin de soutien.
C'est ça.
Et c'est pour ça que je les conseille. Après, chez Album, ils sont adorables aussi.
Ouais, ouais.
Donc oui, donc on a tous cette espèce
dans le 5e arrondissement à Paris, si vous cherchez, ils sont tous là.
Oui, c'est ça, il y en a plusieurs, mais ils sont tous au même endroit. Et sinon,
renseignez-vous. Il y avait Gaël avant, qui était l'endroit où j'allais très régulièrement, qui est même fonctionnement que Pulps, mais bon, ils sont fermés.
Mais sinon, si vous n'êtes pas à Paris, renseignez-vous sur Internet, je suis sûre que vous trouverez. Et allez dans un magasin, c'est le meilleur moyen qu'on vous aide, vous expliquer ce que vous aimez. Alors des fois, vous tombez sur quelqu'un qui vous dira « Ah, moi j'adore les films !» et ils vont vous regarder méchamment, mais certains vont juste être contents que vous soyez là et que vous soyez intéressés et vous non, conseiller. J'ai eu une mauvaise expérience.
Bah, Gaël, j'avais de longues conversations avec les vendeurs sur le Batman de Tim Burton et... la vision du Joker de Jack Nicholson, on a déjà parlé pendant une demi-heure et c'était un long débat.
Mais effectivement, donc les Batman de Burton, c'est une des premières vagues, mais entre-temps, il y en a eu d'autres. Et donc, il y a notamment le Marvel Cinematic Universe, donc tous les films Marvel et tous les films DC. Mais là, on voulait parler des séries parce que ces deux univers existent et l'ont... Vous m'arrêtez si j'en oublie, mais on est d'accord, chez Marvel, on a Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., on a Marvel's Agent Carter, et on a maintenant sur Netflix Daredevil et Jessica Jones. Et chez les DC, on avait à un moment Gotham, vaguement.
Gotham,
c'est toujours là.
Ça existe.
Ça devrait pas, mais ça existe.
donc, Gotham, on a Arrow, que moi j'aime beaucoup, The Flash, que j'aime bien aussi, on a la nouvelle Supergirl, que j'aime beaucoup.
Legends of Tomorrow, qui va arriver très bientôt.
Il y a Legends of Tomorrow qui va arriver sur la CW. Il y avait Constantine sur NBC, c'est les dernières. Et sur le DC Universe, on est d'accord. iZombie,
c'est Image Comics.
C'est Image Comics, donc c'est quelqu'un d'autre.
Il n'y a pas de Image Cinematic Universe pour l'instant.
Ça ne serait tardé. Donc ça fait un certain nombre. Là, j'ai dit celles que j'aimais bien. Vous pouvez dire vous s'il y en a que vous aimez bien ou si vous aimez pas du tout, juste dans la liste.
Bah écoute, moi, je t'avoue que j'ai arrêté quasiment tous les Marvel, c'est-à-dire notamment Agents of S.H.I.E.L.D. que.
T'as arrêté Agent Carter aussi ou tu veux pas regarder la suite ou tu.
Je ne sais pas encore.
D'accord.
Je suis en pleine hésitation par rapport... Donc, ça va un petit peu dépendre de ce qui passe à ce moment-là et le temps que je pourrais lui accorder. Bon, par contre, j'ai une adoration, comme on va le comprendre par la suite pour Jessica Jones.
Enfin, on va en parler très, très, très directement tout de suite après.
par rapport au DC Universe, je continue à regarder Arrow, je continue à regarder The Flash. J'ai arrêté Gotham il y a très longtemps. Constantine, je lui ai donné juste la chance du pilote. Et
je crois que les scénaristes ont arrêté Gotham très, très
tôt.
En fait.
Je crois aussi.
Constantine, le 2 était pire.
Voilà,
mais nettement
c'est ce que j'en avais
pire.
Entendu parler. Enfin, c'est ce que j'avais entendu dire. Donc, j'ai essayé de garder un petit peu mon temps pour autre chose. Donc, Legends of Tomorrow, on va voir ce que ça donne. J'admets avoir un. Et puis, Supergirl, que j'ai aussi arrêté. Il n'y a pas très,
à combien
très longtemps.
D'épisodes juste
On en est au combien, là?
9.
Donc, je ne vais pas dire que l'on s'est arrêté au 10. Mais,
parce que personne ne va te croire.
Je crois que ça devait être le 6 ou le 7.
Okay.
Je me suis arrêtée il n'y a pas très très longtemps. Et c'est vrai que je commence un petit peu à en avoir.
Mais de toute façon, on va en parler. C'était juste pour que, vu que moi j'ai donné une idée de ce que moi j'aimais.
J'ai vu tout Agent Carter, mais bon, il n'y a pas non plus de médaille à avoir, il y a 8 épisodes. J'ai vu la majorité de Daredevil. Jessica Jones en entier. Je suis vraiment à la bourre. Agents of S.H.I.E.L.D., j'ai eu beaucoup de mal. Ça allait mieux en deuxième saison, mais j'ai pas persisté. Mais j'ai très envie de continuer de regarder.
Je préfère la 3 largement à tout le reste.
Mais la première, j'ai vraiment pas aimé.
La première, c'était même tout mon amour de Whedon. Et encore.
Et pour le côté DC, j'aime bien Arrow. Je suis pas très loin, je suis à la deuxième saison. J'aime bien Arrow. Je suis très intrigué par The Flash. J'ai vraiment envie de me mettre dedans aussi.
La première saison est très vide de sens.
D'accord.
Ça, c'est beaucoup de gens qui courent dans tous les sens et pour pas faire grand-chose.
Oui, mais très vite.
Mais elle est très fun en même temps.
Ouais, mais il y a un vide métaphorique en fait. Qui fait que moi je me faisais chier comme un rat la moitié de la saison. Et pourtant, je voulais vraiment aimer. Hein, mais par contre, maintenant, c'est beaucoup mieux. Moi, je trouve ça beaucoup mieux.
Et ils savent faire les crossovers. Hein.
Ah, ça, par contre, super crossover. Ouais. Arrow the Flash, c'est les meilleurs crossovers.
Je continue à regarder Supergirl et on va dire que je suis mitigé. Mitigé positif, mais mitigé.
Ok.
Et oui, Gotham existe.
Moi, j'ai arrêté à 3 épisodes de la fin de la saison. En fait, j'ai tenu. En fait, je voulais arrêter. Puis le premier épisode de la rentrée de janvier, j'étais là. Oh! Et en plus, il y avait Morena Baccarin. Et du coup, j'ai continué à écouter. Et à un moment, j'étais juste là. Tu sais, c'est le moment où t'as plus de force. En fait, t'as plus d'énergie. T'es là. Pourquoi est-ce que c'est toujours sur mon ordinateur? Sans vouloir dire que je regarde les choses sur mon ordinateur, bien sûr, mais jamais de ma vie je ferai un truc pareil.
Non, légalement. Il y avait un épisode dans la saison 1 de Gotham où il y en avait certains qui se lâchaient en disant « Ah, il est génial, ça y est, la série est lancée !» Et c'est soi-disant sur la machination du pingouin. Et j'ai vu l'épisode et j'ai fait mais non, mais c'est pas bon du tout. Ça n'a aucun sens.
Enfin, ça, non, si, ça vaguement, mais c'est juste pas intéressant.
Non, c'est juste pas crédible.
Bon, enfin, ça, tout ça pour dire que je ne
parle pas. On va pas se battre pour Gotham, ça n'en vaut pas la peine.
Ne parlons pas des trucs qu'on n'aime pas. Parlons de Jessica Jones. Alors, tu as lancé les choses, Léa, et puis surtout, tu es notre invitée de marque, Dark Léa. Jessica Jones.
Jessica Jones, c'est fascinant.
C'est une série, donc ça fait partie des séries Marvel qui sont sur Netflix. La première étant Daredevil en avril, celle-là a commencé en novembre. Enfin, c'est du binge, donc c'est en un seul coup, 13 épisodes ont été mis en ligne en novembre. Ça parle d'une ex-super-héroïne à la retraite qui s'est reconvertie détective privée à la Philip Marlowe, c'est-à-dire qui boit beaucoup de whisky et qui a un petit bureau sombre, mais c'est à New York dans Hell's Kitchen, au même endroit que Daredevil. Et elle se retrouve embrigadée dans toute la saison dans une histoire qui a un rapport avec son passé, qui a un rapport avec son plus grand trauma et la raison pour laquelle elle est où elle en est. C'est une série qui est sombre, mais qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de vitalité, avec beaucoup de personnages féminins, créés par une femme, Melissa Rosenberg, qui a écrit tous les Twilight et qui a aussi bossé sur Dexter et qui est une femme très intelligente. Et c'est basé sur un comic.
C'est bien précisé ça après Dexter.
Non mais je sais ce que les gens pensent de Twilight. Moi je sais ce que j'en pense, mais je sais ce que les gens. Il se trouve que je l'ai rencontrée à un événement. En fait, elle est venue à un événement qu'on a fait Ultimart et du coup, je lui ai parlé et c'est pour ça que je le dis. Elle est vraiment très intelligente.
Elle avait écrit un film super avec Evan Rachel Wood qui s'appelait 16 ou quelque chose comme
non,
ça.
Non mais non, 13, ça c'est la 13. C'est la réalisatrice.
Oui mais c'est elle qui a écrit.
Mais non, c'est Christine Hardwick qui a écrit. Ouais.
C'est Christine Hardwick qui a écrit.
Oui, la réalisatrice du premier Twilight. Pas l'auteur du scénario de Twilight.
Okay,
Lisa Rosenberg a écrit tous les scénarios de Twilight. Si vous voulez un jour me lancer sur Twilight, je vous conseille d'aller à Sériemania, de faire Yael, Yael et de me demander pourquoi.
Ou Léa, pour voir qui c'est.
Tu vas voir que je serais contente de leur parler de Twilight.
Oui, alors essayez, si vous voulez parler à Léa de Twilight, de m'en demander aussi mon avis, parce que comme ça, vous aurez peut-être un équilibre. Je suis critique sur les films Twilight, mais pas autant que d'autres. Tout ça pour dire que Melissa Rosenberg est quelqu'un que j'admire beaucoup, et qui en plus essaye de développer cette série depuis très longtemps, et donc elle a vraiment, on sent qu'elle a réfléchi au truc. Le truc aussi de Jessica Jones qu'il faut savoir, c'est que le comics date des années du début des années 2000, et c'est vraiment une tentative de Marvel de créer des comics adultes genre sexe, drogue et rock'n'roll. Donc du coup, il y a clairement une tonalité très différente. C'est Brian Michael Bendis qui est le créateur, tu vois, j'assume le fait que
c'est un petit peu le golden boy des comics.
Voilà. Et c'est sa création, c'est vraiment une création récente, mais qui a été de plus en plus... Enfin, Jessica Jones a contaminé les autres, pour reprendre ce mot que j'adore et que je dis tout le temps en ce moment, a contaminé les autres, le reste de l'univers, et plus ou moins vaguement, des fois, bosse avec les Avengers, en tout cas, elle est pote avec Hawkeye. Et en fait, c'est parce qu'elle est hyper populaire, donc même si elle est très récente, ouais, ça en fait un personnage, c'est un personnage très très populaire. Et dans la série, elle est jouée par Kristen Ritter.
Et juste petit point, si vous cherchez Jessica Jones en comics, bah, vous ne trouverez pas, puisque la série s'appelle Alias en comic book.
Absolument.
Donc, et ils ne pouvaient décemment pas appeler la série Alias, ça a été vaguement déjà fait. Mais pour informer...
Ah bon
hein
Et le mec, il a fait ça, il est devenu quoi depuis?
Pas grand-chose, il a réalisé un petit film de SF fauché dernièrement, mais rien de plus. Oh là là, avec les clins d'œil qu'on fait quand même, hein. Mais tout ça pour dire, voilà, Jessica Jones, bon, peut-être que le titre va changer au bout d'un moment pour coller au Cinematic Universe, mais ça s'appelle Alias, et d'ailleurs son agence de PI s'appelle Alias Investigations.
Absolument. Bon voilà, j'ai fait le pitch, j'ai mis le terrain, vas-y.
Mais écoute, pour moi...
J'ai mis le terrain ne veut rien dire.
Non mais mets-le, je crois que c'est important. Terrain, écoute, on met pas assez le terrain.
Tu as planté le décor.
J'ai planté le décor, vas-y.
Moi, écoute, je trouve que Jessica Jones, c'est infiniment fascinant comme série. D'une part parce que le personnage l'est, d'autre part parce que je trouve que c'est fascinant à l'intérieur même du Cinematic Universe. Mais je trouve aussi que c'est une série qui est fascinante totalement indépendamment du Cinematic Universe. Et parce que je suis contente de voir enfin une femme super-héroïne à l'écran, même si je trouve d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de choses à dire sur le traitement de son statut de super-héroïne, qui en fait, elle ne l'est finalement pas tant que ça.
Oui, c'est ça, elle est à la retraite, c'est-à-dire qu'elle a essayé de l'être
mais
un
non
moment, elle a arrêté.
Elle est à la retraite, mais finalement, sa force physique qui est, ne sert en fait que de... ce n'est qu'un...
qu'un des détails...
Ce n'est qu'un détail.
C'est anecdotique dans sa vie, effectivement.
De sa personnalité et de pourquoi elle est...
Ce que je trouve totalement fascinant, hein, ouais, parce qu'on peut dire... Donc alors attention, on va encore parler 30 secondes normalement et après on va spoiler pour les gens qui ont déjà vu. Donc déjà, Dom, c'était un truc à dire, parce que moi, ce que j'ai à dire, ça va être direct spoiler la suite, donc vas-y.
Non, parce que ce que je voulais rebondir là-dessus, c'est justement, contrairement à certains super-héros où voilà, ils ont cette force-là et c'est cette force-là qui les définit, sa super-force n'est pas ce qui définit Jessica Jones. C'est ce qui la rend spéciale par rapport à d'autres, mais c'est avant tout une femme brillante,
drôle, caustique,
et surtout qui est une enquêtrice hors pair, enfin qui fait vraiment bien son métier, et c'est ça avant tout. Et accessoirement, si elle frappe dans quelque chose, la chose se brise. Voilà, c'est tout. Et c'est pas sa force qui fait que, ben voilà quoi, elle fait pas des combats de boxe pour gagner de l'argent, quoi. Ouais.
Avant qu'on rentre dans les détails et qu'on spoil tout, tu aimes la série ?
Ouais, c'est pas mal.
Non, mais attends.
Je sais que tu détestes cette réponse, donc non, j'aime vraiment beaucoup. J'ai
ça
vraiment
se
beaucoup
regarder, aimé. C'est un petit objet sympathique.
C'est sympathique. À binge-watcher comme ça un dimanche. Voilà. Non, c'est vraiment bien.
Je sais pas si sympathique est vraiment le mot le plus approprié.
Non, pas vraiment.
Donc oui, moi j'adore. Je trouve pas ça parfait,
non.
Mais j'adore que ça existe. Je trouve ça différent, ça change, c'est rafraîchissant à plein de niveaux, et surtout je suis du coup très intéressée par une suite éventuelle, et notamment le fait qu'il va y avoir une mini-série qui va rejoindre les différents univers qu'ils sont en train de créer, dont une série qui va être vraiment très cousine de Jessica Jones, parce qu'elle est sur Luke Cage, qui est un des personnages de Jessica Jones, qui va avoir sa propre série, qui à mon avis est un prequel, c'est-à-dire que ça se passe avant, il me semble.
D'accord.
Et donc il y en aura quatre, et à la fin ça va s'appeler The Defenders, et dans The Defenders il y aura Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, et je ne sais plus quels sont les autres.
Iron Fist.
Merci. Et King Black, non ? C'est ça le truc d'Iron Fist, ou c'est moi qui délire ? Oublie ce que je viens de dire.
C'est Luke Cage qui est...
Ah bah dans ce cas-là, c'est la série Luke Cage.
Non, Iron Fist, c'est celui qui est habillé en vert et qui a des points...
Mais donc c'est Luke Cage.
Il sera peut-être pas habillé en vert.
Il n'y a pas une quatrième série Netflix avec lesquelles ils vont...
Si, il y a Luke Cage.
Luke Cage, c'est pas Iron Fist.
Et ensuite, il y aura Iron Fist, et après, il y aura encore de nouveaux...
Non, parce que j'ai dit, c'est qui Iron Fist, et tu m'as dit, c'est Luke Cage, c'est pour ça que j'ai pas
compris. Non, tu m'as dit, c'est celui qui est Black.
Donc oublions.
Luke Cage est Black.
C'est pas grave. C'est marrant, en regardant Jessica Jones, je me suis dit que Daredevil, c'était une sorte de comment dire, de série préparatoire à Jessica Jones. C'est, on passe d'un univers cinématographique plutôt fun, plutôt on est dans
jusqu'à maintenant.
Ouais.
Clairement, Avengers 2, c'est le moment où ça tourne.
C'est plus une sombre, mais on reste quand même dans un truc assez enjoué, vaguement positif, on va dire.
Même au niveau de la lumière, c'est déjà beaucoup plus lumineux que.
Et entre guillemets, même si j'aime pas trop l'appellation, pour enfants. C'est-à-dire que les enfants peuvent le voir, bon, avec des parents à côté quand même pour expliquer certaines choses. Mais voilà, Daredevil, au niveau de la violence, c'est un cran au-dessus. Mais c'est juste au niveau de la violence, en fait. Jessica Jones, c'est au même niveau de violence, plus de la violence, violence physique, plus de la violence psychologique, plus, sans parler des déviances de l'antagoniste, bien évidemment, il montre le sexe d'une manière que le Marvel Cinematic Universe ne montre absolument pas jusqu'ici.
Absolument. La sexualité existe.
Voilà, et ce sont des vrais rapports sexuels. Contrairement à Daredevil, où c'est très factice, c'est très filmé, je trouve, ça fait vraiment scène de film de érotique bas de gamme. Autant là, dans Jessica Jones, j'ai vraiment l'impression de voir un rapport sexuel entre deux personnes.
Mais moi, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, d'autant plus que j'avais beaucoup aimé Daredevil au moment où ça a été diffusé. Et en même temps, je trouvais qu'il y avait quelque chose où ils essayaient trop, quelque part, d'être trop dark, trop intelligent, trop en dehors de...
C'était un peu forcé et pas assez organique, c'est ça ?
Voilà, il y avait quelque chose... Où j'ai jamais réussi à mettre vraiment mon doigt dessus, mais c'était très esthétisant, très beau, très...
Moi, je crois que la série a été polluée, entre guillemets, par Hannibal.
Ah ouais, c'est possible, oui.
C'est parce que rien que sur le générique, il y a... Enfin, c'est très... c'est strictement le même, en fait. C'est le visage qui se remplit de sang.
Ouais,
et derrière, au niveau esthétique, au niveau du jeu, de lumière, au niveau de la façon dont c'est éclairé, c'est-à-dire très faiblement, sauf par endroits, ça m'a vraiment fait penser à Hannibal. Et je pense que ça a vachement pollué, au niveau esthétique, la série. Et du coup, il y a une recherche de noirceur absolue. Qui va plutôt bien avec le personnage, hein. Daredevil, c'est pas le plus joyeux des personnages Marvel, bien au contraire. Mais bon.
Mais je trouve que justement, Jessica Jones, donc peut-être aussi parce qu'il y a eu Daredevil avant, on a une facilité à rentrer dans cet univers-là, beaucoup. Une facilité beaucoup plus facile, bref, vous avez compris. Mais en tout cas, parce que sur Jessica Jones, c'est la même chose que Daredevil, le même genre d'univers, mais en simplifié et avec une histoire.
Ouais.
Mais aussi parce que l'esthétique a été simplifiée.
Non, mais en plus, on dirait it sets the tone, c'est-à-dire que la tonalité a été donnée par Daredevil. Et c'est clair qu'il y a un truc clair que quand tu regardes Jessica Jones, tu dis je n'ai jamais vu un truc pareil. Ah oui, mais en même temps, il y a des trucs vaguement comme Daredevil.
C'est logique, étant donné qu'ils sont censés se rejoindre et pas forcément rejoindre les autres, le fait qu'ils partagent à peu près la même esthétique et la même unité, ça fait totalement sens.
Je voudrais juste, avant qu'on passe à la phase spoiler, dire qu'il y a 13 épisodes, que c'est clairement feuilletonnant, dans le sens où déjà le pilote ne se ressent pas comme un pilote. Ils ont beaucoup parlé du film de 13 heures. C'est vrai, il y a des unités d'épisodes quand même.
Oui, il y a des histoires bouclées dans chaque épisode.
Il y a un rythme particulier. En tout cas, je veux juste dire aux gens qui hésitent de donner sa chance à la série... Ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout, ça vaut le coup de suivre l'histoire, ça vaut le coup. C'est pas le genre de truc où ce que vous ressentez au deuxième épisode, ça va stagner, ça va être ça jusqu'à la fin. Il y a vraiment des surprises et dont on va vaguement parler sans être trop dans le détail parce qu'on n'a pas le temps malheureusement. Mais en tout cas, vous pouvez arrêter si vous voulez pas être spoilé et sauter quand on parlera des autres super-héros, ce sera écrit dans le post. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous donner la chance de regarder cette série. On est d'accord.
Ah, bien sûr.
Oui.
Donc maintenant on passe à l'espace un peu spoilante, donc je vais me permettre d'en parler. Ce que je trouve bien sûr fascinant, vous imaginez, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est que c'est l'allégorie incroyable sur l'abus psychologique et sexuel d'un prédateur surtout sur une femme qui dans ce cas-là est indépendante, forte, physiquement forte, libre, tout ce que vous voulez, et a été complètement traumatisée par ce type qui l'a possédée et qui l'a enfermé.
Mais ça va même au-delà de l'allégorie.
C'est au-delà de l'allégorie.
C'est très clairement mais c'est, dit que en c'est plus, un viol.
Mais au-delà du viol, en fait, ce que je trouve génial, c'est que en plus du viol, ils utilisent des trucs surnaturels pour parler de l'immobilité, de l'incapacité d'agir et de se défendre que peuvent avoir les gens, parce que lui, il contrôle les autres, et donc automatiquement, les nanas se sentent contrôlées et le suivent, qu'elles le veuillent ou non.
Donc on parle du personnage de David Tennant, de Kilgrave, qui se fait appeler The Purple Man dans les comics, qu'on appelle peu comme ça en fait.
On dit juste qu'il s'habille en purple au début de la série.
Son nom de super vilain, c'est The Purple Man.
Ce qui fait pas très peur. Il fait beaucoup plus peur en vrai.
Oui, et déjà, tu te dis, David Tennant, il fait pas très peur. Oui. Beaucoup.
C'est parce qu'il est charismatique et qu'il ne fait pas très peur que ce personnage est absolument terrifiant.
Ouais. Sa première apparition en vrai, en physique, quand il arrive dans la famille et qu'il commence à dire deux, trois choses et que tout le monde le fait, c'est tétanisant, quoi. C'est vraiment tétanisant.
Oui, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a aussi cette notion que... De ce tortionnaire qui finalement ne l'est pas forcément Pour des personnes extérieures, donc même nous, de temps en temps, en tant que spectateurs extérieurs, on ne se rend pas compte de pourquoi c'est un tortionnaire et pourquoi...
De la violence de ses actes.
Voilà, de la violence de ses actes. Et finalement, au fur et à mesure que la série avance et que son personnage commence aussi à réaliser un certain nombre de choses, le spectateur, et je pense notamment aux hommes, sans vouloir dire que les hommes ne peuvent pas comprendre avant... Mais il y a quand même quelque chose de... Ça y est, on a démontré par A plus B que oui, ce sont des victimes. Et ce qui est intéressant, c'est que Jessica Jones, donc, qui a, comme on l'a dit, une super force, ben même elle n'a pas pu faire face à cette violence physique, à cette violence psychologique...
Et à l'emprise psychologique du bourreau. Mais non, parce que donc juste pour les gens qui n'ont pas regardé la série, ont quand même voulu écouter les spoilers, Kilgrave a la capacité de
c'est un Jedi.
Mais en fait, c'est exactement ça. C'est un Jedi, c'est-à-dire qu'il peut ce qu'il dit aux les gens font ce qu'il leur dit de faire, quoi qu'ils veuillent. Ils n'ont aucun moyen de s'en libérer et son influence dure 12 heures.
Ouais.
Et donc, ça veut dire que quand. Et en gros, il a gardé Jessica Jones à sa merci pendant 6 mois, à peu près, c'est un truc comme ça, jusqu'à ce qu'elle arrive à en sortir sans vraiment savoir pourquoi. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a arrêté d'être un super-héros et qu'elle a essayé de faire autre chose, parce qu'en fait, elle est complètement. Notamment dans le trauma de ce qu'elle a subi, mais dans le trauma de ce qu'elle a fait quand elle était sous l'influence.
Elle se cache, elle ne veut pas qu'elle retombe sur lui, donc elle se planque, et donc elle vit.
Et puis surtout, elle est complètement rongée par la culpabilité d'avoir notamment été responsable de la mort de quelqu'un d'autre et responsable de choses, même si ce n'était pas des choses qu'elle a elle-même faites. Et en fait, dans le premier épisode, tout d'un coup, elle se retrouve à essayer d'aider quelqu'un qui a été victime de la même personne. Et c'est vrai que tout ce truc avec toutes ces femmes qui sont dans cette situation, en plus, il y a plein d'autres personnages. Enfin, par contre, c'est vraiment dark sur le psyché masculin. Heureusement qu'il y a Luke Cage, et encore lui, des fois, tous les mecs, c'est difficile, quoi. Le mec de Trish aussi.
C'est très problématique, le mec de Trish.
D'autant plus que lui est aussi victime de Kilgrave dans un premier temps, et lui va se cacher derrière ses arguments de « je suis une victime, donc... » Si je veux maintenant agir et donc devenir tortionnaire à mon tour, c'est normal, c'est parce que je veux agir dans le bon sens. Et ça pose la question.
Sans en dire long, en fait, je trouve que ça dit rien de. Enfin, ça n'affirme rien sur tous les hommes. Par contre, ça en dit long sur la peur que les femmes peuvent avoir des hommes et l'inquiétude que la présence masculine peut avoir dans une vie féminine. Que le fait que, à tout moment, le type. Parce que dans le cas de Trish, c'est ça, le type qui te fait triper, qui est ton mec, devient un taré qui peut essayer de te tuer, quoi.
Mais il y a une scène très intéressante, d'ailleurs, avec Simpson, donc, qui a été... qui, sous les ordres de Kilgrave, devait tuer Trish. Une fois qu'il n'a pas pu le faire, et une fois que c'est...
qu'il est libéré de
de son emprise. Ben, il y a aussi une scène très intéressante où Trish veut qu'il dégage de son immeuble et que lui veut faire des excuses. Et il y a aussi une violence là-dedans, dans son besoin et son envie de s'excuser qui dépasse son envie à elle, qu'elle lui foute juste la paix. Et il y a aussi, donc, même par rapport à ça, il y a quand même un rapport très intéressant à la violence, et que la violence peut être juste une excuse. Si on n'a pas envie de la recevoir, ça peut être violent. Ouais.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a un truc sur la délimitation des droits et la délimitation de l'espace et l'espace restreint qui est donné aux femmes. Et en plus, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a 5 personnages féminins. Donc il y a Jessica Jones, il y a sa boss qui est celle pour laquelle elle travaille.
C'est vraiment pas la. Ce personnage-là est vraiment pas l'aspect le plus intéressant de la série.
Je trouve que c'est un élément intéressant parce que sinon, ce serait toutes les nanas, elles seraient toutes pareilles. Elles seraient toutes sur le même modèle. Elle n'est pas sur le même modèle.
Ouais.
Elle fonctionne pas pareil, elle n'est pas dans le même truc. Le fait que ce soit un personnage d'une femme lesbienne, avec une maîtresse et tout, c'est intéressant parce qu'on revisite des clichés qui sont accordés aux mecs. Et vu la thématique, si toute la série n'avait toujours que la même dynamique entre les hommes et les femmes, ce serait vraiment problématique.
Ouais, bien sûr.
On a aussi la mère d'Autriche qui est, elle aussi, qui a abusé sa fille.
Ouais, ouais. Très intéressant ce personnage.
Qui est aussi profondément intéressant parce que oui, tu parlais de la domination masculine dans les rapports de force, mais là on voit aussi que ça peut venir des femmes et qu'on peut aussi s'enfermer là-dedans. Enfin, donc il y a tout ce rôle.
Il y a des scènes d'ailleurs d'une rare violence.
C'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait c'est drôle quand même. Il y a vraiment plein de trucs super drôles. Et Jessica est tellement, enfin elle a un tel charisme qu'on a un plaisir à la voir se défendre, à la voir se battre, à la voir trouver des solutions. Et puis bon, il y a, enfin, t'allais dire une scène du particulier violence, parce qu'après moi je vais, ça va.
Mais c'est juste avec la mère de Trish, quand tu la vois la forcer à vomir parce que sinon elle va devenir trop grosse. Enfin, c'est peut-être une des scènes les plus violentes que tu vois de la série, quoi. C'est juste, ça te enfin moi personnellement ça m'a retourné l'estomac, quoi. Ça marche.
C'est petit pain.
Ah bah là, qu'est-ce que tu veux faire? Mais ouais, c'est une série qui est très très sombre. Je vais dire un truc un peu étrange parce que ça a l'air de se diriger vers ça, mais pour du Marvel. Je trouve que ça va vraiment très très loin. Qu'est-ce que je pourrais dire de qui m'a pas forcément emballé? Je trouve que la saison est un peu longue. Voilà. Je trouve qu'il y a des pistes narratives qui sont un peu trop appuyés. Moi, le personnage de Carrie Anne Moss en tant que personnage est intéressant. Son arche est pas me transcende pas forcément plus que ça. Ça m'aurait pas gêné qu'elle reste un personnage plus secondaire et que son histoire avec son ex et tout ça soit finalement plus en retrait. Je ne me suis pas senti transporté par ça.
Non, mais je te dis, moi, je sais pas que je me sentais transportée, c'est que je trouve que ça donne une diversité, une pluralité à l'univers.
Ouais, bien sûr.
Moi, ce que je voudrais souligner, c'est aussi les retournements, quand même, parce que c'est une progression qui n'est pas linéaire.
Non.
Et ça s'est centré autour du personnage de Kilgrave et les différentes choses qu'on apprend sur lui et ce qu'on découvre. Et il y a quand même cet épisode génial.
Où il cohabite.
What would Jessica do, WWDD, où elle accepte de vivre avec lui pour qu'il arrête de tuer tout le monde.
C'est incroyable cet épisode.
Plus tôt que ce que je n'imaginais. Ouais. Moi, je pensais
c'est
que
l'épisode
être...
8, c'est ça, je crois.
7 même, non
Non, 8.
8. Mais je pensais
on vérifiera.
Une fin de saison.
Ouais. Oui, non, mais en fait, c'est génial parce qu'elle va, elle pousse la logique jusqu'au bout. Il pousse la logique jusqu'au bout, ok. C'est pas juste un grand méchant et je suis pas juste une victime. C'est une personne, je suis une personne. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Ok, là
c'est
il est en train de tuer des gens.
À voir, ça.
Qu'est-ce que je vais faire? Ok, bah, je vais faire un truc que je peux faire pour qu'il arrête.
C'est l'équivalent de Loki et Thor qui s'assoient pour discuter, quoi.
Ouais, ouais.
Et ça arrive pas, ils sont tout le temps en confrontation.
Non,
et là
c'est
ils sont
vrai,
en
ils ont une super conversation. Ouais, dans Avengers, dans Avengers, mais si sur le truc après quand t'as Iron Man.
Ouais. Mais le fait est que tout ce passage-là est fascinant. Pourquoi? Parce que l'héroïne est l'héroïne de sa propre histoire, mais l'antagoniste est aussi le héros de sa propre histoire. Donc non seulement il se pose en quelqu'un qui essaye de faire des choses convenables, parce qu'il considère avoir bien traité les gens. Ce qu'il lui dit quand même, c'est pour justifier 6 mois de viol, je t'ai quand même payé des bons restos. Oui.
Oui, mais de son point de vue, c'est pas un viol.
Bah non.
Donc puisqu'elle était là de son plein gré.
Et c'est ce qu'il explique.
Oui, bien sûr.
C'est que et le pire, c'est qu'il se pose en victime. Ouais. C'est tu te rends compte? Je ne sais pas quand est-ce que les gens acceptent ou sont sous mon emprise. Et là, tu dis,
mais c'est
normal qu'ils pensent ça. C'est n'importe quoi et t'es un grand malade, mais c'est normal que tu penses ça.
Et ça donne froid dans le dos de voir ça et de se dire... Mais
et il y a la meilleure joke, il y a la meilleure joke de toute la série. One time I told a guy to go fuck himself.
Un jour, j'ai dit à un mec d'aller se faire foutre pour les non-anglophones.
Donc... Et tu dis, là, c'est pas essayer de justifier le personnage, pas du tout. Non, c'est le traiter de manière crédible et logique.
Et
oui,
humaine, ouais.
Bien sûr qu'il penserait comme ça. Il a tort, mais bien sûr qu'il penserait comme ça.
Après, moi, je trouve qu'il y a un vrai truc sur le prédateur et sur les figures de prédateurs sexuels, notamment les pédophiles qui ont des personnalités charismatiques et qu'on voit dans les profils psychologiques... je parle de ceux qui sont des grands organisateurs de leurs propres crimes, à répétition, avec toujours, enfin il y a tout un tas de, il y avait un bouquin récemment dont j'avais entendu parler sur un mec qui parlait de l'abus de son enfance et en gros il disait que le mec qui avait abusé de lui, en fait, c'était un notable qui était un mécène pour les jeunes mères célibataires perdues, et il était bon avec les enfants et les mamans, et en fait, il avait une espèce d'emprise, et qu'il y a tout un truc sur le fait qu'ils ont l'impression que ça leur est dû, et que ça leur appartient, et qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse vouloir autre chose, et pourquoi on ne veut pas lui refuser quelque chose qui appartient. Et enfin, si on s'intéresse un peu au profil de ce que c'est que les violeurs et tout ça, c'est pas du tout le type paumé au milieu d'une allée. Ça peut arriver, bien sûr, enfin ça arrive, tout arrive malheureusement, mais c'est vrai que les profils récurrents psychologiques, c'est beaucoup plus quelqu'un qui a une capacité d'emprise sur les gens et qui ne comprend pas que tout ne lui est pas dû. Et ça, je trouve, c'est tellement brillant de l'avoir explicité avec cette forme surnaturelle, parce que du coup ça va jusqu'au bout de la logique de ce que ça sous-entend pour lui comme pour les autres. Enfin, c'est brillant, et j'ai jamais vu ça, en fait. Et donc quand tu vois ça dans une série, tu dis ok, quoi. Enfin, moi j'ai le genre de série où je suis là, ça existe, quelqu'un raconte cette histoire. Et je pense que une des problématiques féministes, c'est ce qu'on appelle la rape culture, qui est la culture du viol, qui est un terme qui est très violent et qui est très difficile à comprendre quand on n'a pas passé du temps avec ce concept. Je mettrai quelques articles en anglais qui explique un peu, j'essaie de trouver des choses en français, mais c'est très difficile de trouver des choses bien expliquées sur la question, même si oser le féminisme fait des trucs pas mal de temps en temps. Mais en gros, la rap culture, c'est l'idée qu'on a toute une culture générale qui, en gros, entérine l'idée qu'une femme peut être un objet ou doit être un objet dans certains cas, ce qui du coup provoque des amalgames psychologiques qui font que c'est plus simple de passer à l'acte sur des agressions sexuelles de toute forme, parce qu'il y a cette objectification du corps de la femme qui, du coup, crée une représentation de la femme comme un objet. Ce qui ne touche pas tout le monde de la même façon, mais selon les éducations, et le fait même que la rape culture, c'est que c'est notre culture, si elle était un peu changée, ça pourrait peut-être un peu changer les choses. Et c'est vrai que, du coup, que dans cette culture-là, une série comme Jessica Jones existe, et quelqu'un, n'importe qui, que ce soit une ancienne victime, que ce soit une jeune femme, un jeune homme, un vieil homme, n'importe qui puisse peut-être comprendre quelque chose sur ce truc, parce que c'est clair que quand tu parles avec des hommes de cette question de la peur de l'agression sexuelle, de tous les jours, c'est une possibilité, j'y pense tout le temps dans ma vie. Pourtant, j'ai pas spécialement peur, mais bien sûr que tout d'un coup, il y a ce moment, chaque fois, mais d'ailleurs dans Master of None, il y a un épisode dont j'ai parlé récemment, il y a un épisode qui montre comment c'est une fille qui rentre chez elle par rapport à deux mecs qui rentrent chez eux. Et la musique change.
Ouais.
Et en fait, t'as le décalage entre les deux moments, et juste le moment où tout va bien, t'es dans un quartier safe, tout va bien, et puis tout d'un coup, il est tard, et tu vois un mec seul devant une porte. Et là, tu fais... Ah, peut-être
danger
que...
Danger potentiel.
Même si c'est un quart de seconde,
tu vas y penser.
Un quart de seconde, on y pense. Et ce qui ne veut pas dire qu'on changera totalement notre vie, ça ne veut pas dire qu'on
mais
va changer.
Mais c'est une lourde influence sur notre vie, bien entendu. Et que plus ça, c'est quelque chose qui est compréhensible. Et que tout nous, ça nous semble tellement évident en tant que nana. Après, je sais que moi, je connais plein de mecs qui ont vécu ça dans leur adolescence et tout, dans le fait de se faire racketter, de se faire taper dessus. Mais c'est vrai que du coup... Mais en
c'est
fait,
moins
on
institutionnalisé.
Et surtout, on n'en parle pas les uns avec les autres.
Non.
Et du coup, je pense que une série comme ça, quand je vois ça, je suis là. Et puis le fait que c'est un super-héros, enfin, ça en sous-entend beaucoup sur l'idée de, quand je dis ancienne victime, j'ai plutôt envie de dire survivor d'ailleurs, celle qui a survécu, de cette idée que tu peux en sortir et comment elle essaye d'en faire quelque chose.
Mais justement, et même la série aborde un sujet que je trouve vraiment intéressant, c'est justement dans les problèmes qu'on pourrait englober sous le principe de la rape culture, il y a aussi le côté de mettre en doute les témoignages de personnes qui ont été violées.
C'est clair que c'est
du systématisme, c'est même pas « Ah, elle doit mentir », c'est « Peut-être qu'elle ne dit pas la vérité ».
Peut-être qu'elle exagère.
Et ce qui est marrant, c'est que c'est abordé dans la série de manière assez subtile au début, quand elle essaie de réunir les gens qui ont été victimes de Kilgrave, et son attitude à elle, en fait, pourrait être l'attitude qu'on a face à quelqu'un qui s'est fait violer, dont on doute, parce que toutes les personnes qu'elle croise, quand elle entend, tu la vois, et son visage, c'est « Tant qu'ils ne m'ont pas donné un élément qui m'y fait croire à 100%, je ne vais pas les croire. »
Parce qu'il y a la première qui dit...
qui dit n'importe quoi.
Non, mais surtout, il y a le truc, c'est oui, c'est le jardinier de notre quartier. Il a convaincu ma fille de coucher avec lui. Oui, c'est un beau mec de 22 ans, machin. Il a convaincu tout le quartier de coucher avec lui. Tu vois, un truc était là. Je crois pas que c'est lui, en fait. C'est juste... Elle dit, non, mais sinon, j'aurais jamais couché avec lui hein, s'il m'avait pas manipulé psychologiquement. Et là, mais tu vois, c'est rigolo parce que c'est le mais pendant ou que c'est clairement la gamine d'une famille conservatrice qui peut pas avouer qu'elle voulait coucher avec quelqu'un. Et du coup, et là, tu t'imagines tous les dangers et toutes les complications de ce genre de sujet, quoi.
Mais ce qui est aussi très intéressant dans Jessica Jones, c'est que ça aborde aussi le sujet du viol domestique. Mm-hmm. Et qu'un viol, ce n'est pas forcément une agression par un inconnu. Oui. Et que les statistiques prouvent c'est souvent par un proche, par le mari, par le petit ami.
Entre 15 et 20% un inconnu, à peu près, les chiffres, on est autour de 15% en fait. Et que ça veut dire 85% d'un quelqu'un que tu connais.
Et donc, ça veut dire aussi que...
Les viols déclarés, bien sûr, parce que je ne parle même pas de tous ceux dont on ne sait pas qui existent.
Et donc, ça veut dire que...
Yay, fun show.
En même temps, on parle de Jessica Jones. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il faudra bien sous-titrer Jessica Jones, parce qu'à la base, c'est « Podcast sur les super-héros !» Alors, le viol. Ploum, ploum, ploum.
Je ne sais plus ce que je disais. Non, et puis donc, là, ça pose aussi la question de la femme et comment... du statut de victime et de comment s'en sortir en tant que victime. Ouais. Et d'ailleurs, quand je dis viol, c'est d'ailleurs les femmes battues également, pas tous les abus qu'une femme peut subir.
Oui, les abus psychologiques aussi.
D'ailleurs. Ce qui est traité avec le personnage du petit ami de Trish et la façon dont il agit, quoi.
Ouais, c'est et quand on voit quand même le nombre de... Enfin, il y a eu un certain nombre de cas déclarés ces derniers temps, notamment aux États-Unis, en France assez récemment, où des femmes se font condamner à des années de prison... pour avoir abattu ou avoir juste blessé leur mari, leur conjoint, parce qu'elles ne pensaient pas avoir une autre solution. Et ça veut dire beaucoup sur la société, d'une part qu'elles ne pensent pas avoir d'autre solution, et d'autre part qu'on condamne une deuxième fois ces victimes. Voilà.
Non, mais c'est clair. Et c'est vrai que... moi, la raison pour laquelle j'aime les super-héros, c'est parce que je trouve pas du tout que la question du bien et du mal, c'est un truc anodin ou ridicule. Ma passion récente pour Star Wars le prouve. cette idée que d'un côté, il y a l'obscurité, de l'autre côté, la lumière, je pense que ça reflète assez une réalité... pas aussi simple que ça, mais en tout cas qu'il y a et que l'idée du super-héros, c'est j'ai un talent quel qu'il soit et je veux l'utiliser pour aider les autres. Et ce qui est rigolo, c'est que la fin de Daredevil, spoiler, c'est vraiment lui qui devient Daredevil, c'est vraiment lui qui, la fin de Daredevil, c'est il a son costume.
Mais d'ailleurs,
la fin de Jessica Jones.
C'est ça aussi.
C'est le fait que en ayant vaincu Kilgrave de façon aussi publique, tout d'un coup, elle écoute tous les messages des gens qui ont appelé pour dire j'ai un boyfriend qui me tape dessus, je sais pas quoi faire, please Jessica Jones help me, et c'est tous ces 50 très personnes très différentes et elle qui est là, putain, ils pensent vraiment que je suis une héroïne alors que je suis flawed, comme on dit. J'ai des défauts, j'ai plein de choses.
Ça annonce une très jolie relation avec son voisin toxico, en rédemption. Parce que la façon dont il prend le téléphone...
C'est génial.
Parce
qu'il était sur le point de quitter la ville, et finalement, il entend tous les messages et il fait... Elias Investigations, hello!
Et non seulement ça pose des bases pour une éventuelle saison 2, bien entendu, mais
c'est aussi... Ce qui n'aura pas lieu, malheureusement.
Ah ouais?
J'ai cru entendre, alors je ne suis pas sûre, c'est vraiment à vérifier ça, mais j'ai cru entendre que finalement il n'y aura pas de saison 2, parce qu'elle aura un rôle très important donc, dans Luke Cage, et que donc ce n'est pas... C'est pas sûr du tout qu'il y ait une saison 2.
Mais en fait, il est possible qu'il y ait une saison 2. Je pense que ce qu'ils vont faire, c'est que de toute façon, ils risquent d'avoir de faire des saisons 2 après The Defenders. C'est-à-dire qu'ils font les 4 mini-séries, et ensuite The Defenders...
Je pense qu'il faut aborder cet univers-là comme le Marvel Cinematic Universe avec The Avengers et les autres, et que du coup, il va y avoir des entrelaps entre les deux.
Et d'ailleurs, Rosario Dawson, qui était une de mes parties préférées de Daredevil, est génial dans la fin de Jessica Jones, dans les deux derniers épisodes.
Accessoirement, mais tu vois, quand je disais qu'il marche très bien dans l'univers, où ils ont cette manière de l'intégrer de manière totalement naturelle, pour faire...
Absolument.
Ils l'ont très bien fait. Ils l'ont très bien fait, d'ailleurs, avec The Big Guy, qui fait référence à Hulk en permanence, mais qui n'est pas aussi évident que...
Oui, c'est pas un gros truc. Mais je voulais continuer cette idée. Du coup, moi, ça me touche, les histoires de super-héros, parce que c'est des gens qui aident d'autres gens. Et il y a tellement de séries qui sont cyniques. Il y a tellement de séries qui sont... Tu vois, parce que Daredevil, c'est dark, mais c'est pas cynique. Et tu vois, le nombre de séries qui m'expliquent... Enfin, je l'ai déjà dit quand on parlait de Mr. Robot, mais... qui m'explique comment mais je vais manipuler des gens et je vais être vachement machiavélique. Et en fait, je suis sûre qu'il y a des gens comme ça. Déjà, je suis pas sûre qu'il y ait des gens aussi compétents dans la vraie vie. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, cette idée d'essayer de faire le bien. Et j'avoue que pourquoi j'aime toutes ces séries, et je regarde pratiquement toutes ces séries de super-héros, même si Agents of S.H.I.E.L.D., je me suis vraiment fait chier au début, et même si la première saison de Flash, je me suis fait chier, il y a quelque chose, et en fait, quelque part, j'aime aussi le côté à tiroir de la possibilité, tu vois, le fait que Agent Carter, ce sera un prequel de Agents of S.H.I.E.L.D., le fait que malgré tout, les films de Marvel ont quand même des incidences sur la série et vice-versa, surtout dans l'autre sens, bien sûr, les films de Marvel ont la conséquence qu'après l'instant, ils étaient pourris parce qu'ils attendaient que Captain America arrive pour pouvoir vraiment faire évoluer la série. Mais par exemple, effectivement, on a dit Constantine tout à l'heure. Et dans la nouvelle saison de Arrow,
ils l'ont fait parfaitement. Ils ont fait ce que
ils ont fait un épisode avec Constantine. Ils
auraient dû faire.
D'accord.
Ils ont fait un crossover entre des crossovers de Flash Arrow. On en a souvent.
Qui sont les meilleurs épisodes des deux séries d'ailleurs. Ils sont incroyablement bien écrits.
Gardent leur univers
et leur tonalité. Et ils sont tellement bien écrits.
Et puis là, il y a Constantine, donc qui était sur NBC l'année dernière, qui a été annulée entre temps. Mais qui est revenu dans Arrow et qui a passé
avec le même acteur, donc l'acteur de
avec et c'était mais tellement
et
bien
il va
fait,
revenir à la fin de la saison là,
voilà que je me suis même dit est-ce qu'il ne faut pas que j'aille revoir Constantine parce que
ah ouais quand même
ah ouais non mais c'était vraiment extrêmement bien
tu
fait.
Penses que s'ils font venir des personnages de Gotham dans la série tu retournerais voir Gotham
non parce qu'au final je suis quand même pas allée voir
Constantine
mais par contre ce que je trouve très intéressant par rapport à Jessica Jones c'est aussi de voir que et bien, assez bizarrement, quand c'est des super-héros masculins, en général, ils cherchent à devenir super-héros. Alors qu'on voit que Jessica Jones a tenté, que ça n'a pas réussi, et qu'elle n'était pas non plus particulièrement fan de l'idée dans un premier temps. Et mine de rien, elle a fait tout pour ne pas l'être. Elle a commencé à boire, elle a commencé à devenir de plus en plus solitaire. Au final, oui, c'est une super-héroïne parce qu'elle a vécu tout ce qu'elle a vécu, mais elle n'a pas cherché à l'être, alors que les hommes, en général, cherchent à le devenir.
Eh bien, j'ai envie de te dire, les nanas dans Arrow, parce que moi, une raison pour laquelle j'aime Arrow, c'est qu'il y a plein de personnages et que l'équipe a grandi. Et pour le coup, les nanas, elles ont voulu, elles se sont battues. Et lui, il a essayé presque de les en empêcher, parce que bien sûr, c'est son ex et sa sœur. Donc...
Mais c'est aussi, dans la saison, il a fallu un certain temps pour
qu'elle devienne. Oui, il a fallu un certain temps. Mais c'est un des trucs que j'aime dans la série, c'est qu'elle a évolué et que maintenant, la Team Arrow, c'est 3 nanas et 2 mecs.
Ouais.
Et tout d'un coup, sans parler du fait que à la ville, la seule qui a un peu de pouvoir, c'est celle qui fait la secrétaire dans le groupe. Enfin, c'est pas cette secrétaire, c'est celle qui s'occupe des ordinateurs, mais c'est elle qui leur dit où aller. Et qu'elle, elle est... je suis aussi PDG de la plus grande compagnie technologique de la ville et je finance l'intégralité de l'opération Arrow. Et ce genre de truc... Pour bien le coup, moi, c'est un truc que j'aime dans Arrow. J'aime aussi les nanas dans The Flash, qui sont même celles qui étaient connes et moins connes maintenant.
Ce qui est rigolo quand tu fais le parallèle avec Daredevil et Jessica Jones, c'est que finalement l'un est le négatif de l'autre. C'est-à-dire que tu en as un qui est devenu aveugle et qui veut impérativement devenir super-héros, et l'autre qui a tout pour être super-héros mais qui veut absolument pas l'être.
Mais
la finalité, c'est la même. C'est assez rigolo. C'est qu'au final.
Je voudrais quand même qu'on dise un truc sur Supergirl, du coup, vu qu'on était parti sur les... Justement, donc Jessica Jones, super-héroïne, Supergirl, pour le coup...
Qui veulent le devenir, elle.
Voilà.
C'est dark, hein, Supergirl.
Mais quelque part, qui veulent le devenir aussi... Mais pas pour sauver le monde, pas pour...
Non, elle veut le devenir, exactement comme The Flash. Je trouve que c'est vraiment le même genre de psychologie que les autres personnages.
Je suis pas tout à fait d'accord, dans le sens où, mine de rien, quand une femme le devient, c'est parce qu'il y a une raison... personnel qui l'a fait passer à l'acte.
C'est exactement pareil dans The Flash.
Bah non, dans The Flash, il a d'un coup des super pouvoirs et puis il se rend compte qu'en effet, il peut sauver l'humanité.
En même temps, ça en dit long sur le fait qu'on n'encourage pas les nanas à avoir de l'ambition pour elles-mêmes.
Mais c'est exactement ça, c'est qu'on n'encourage pas. Supergirl, elle aurait pu le devenir il y a très longtemps. Il a fallu que sa sœur soit dans un avion, quoi. Et à l'article de la mort pour assumer ses pouvoirs.
Et en même temps, une fois qu'elle l'a fait, elle est bien contente de le faire.
Jessica Jones, il a fallu qu'elle fasse face à son
Le cheminement est un peu moins...
Donc il y a toujours quelque chose de beaucoup plus personnel pour qu'une femme puisse enfin devenir une héroïne ou une super-héroïne.
Tu crois qu'il y aura des crossovers entre Supergirl et le reste du DC?
Bah, je me suis dit...
Parce que c'est CBS et CW, c'est des chaînes cousines.
Moi, j'y crois. Je pense pas, moi.
C'est les mêmes créateurs, c'est le même univers. C'est des chaînes qui sont liées l'une à l'autre. CBS, c'est le CBS.
DC est vachement bizarre avec ses propriétés, parce que autant Marvel, ils veulent que tout s'entrecroise, au point où ça devient un petit peu problématique de suivre, je pense. DC, ils veulent les trucs un petit peu chacun dans leur coin.
Mais je me demande s'ils n'ont pas déjà fait des allusions les uns aux autres. Enfin, je sais que dans Supergirl, il y a eu des allusions.
Ils font des allusions et tu vois une sorte d'ombre avec une cape rouge.
Superman, à Central City et Star City.
Il y a vraiment déjà eu des allusions qui ont été faites.
Peut-être.
Donc je me dis pourquoi pas. Ouais.
Après, au niveau tonalité, ça colle. Hein.
Ça colle totalement. Ouais.
Moi, j'aime beaucoup Supergirl.
Ça colle plus avec l'univers cinématographique.
À quel point ça me plaît, Supergirl. Je suis surprise. Enfin, en fait, je ne suis pas surprise parce qu'au début, je voulais que ça me plaise et maintenant, je suis là, ça me plaît vraiment.
Moi, je suis partagée. Hein. Ça dépend vraiment des épisodes. Hein. Je trouve le début très poussif. Très, très poussif. Ouais. Premier épisode n'est pas si mauvais que ça. Franchement, j'en ai entendu beaucoup de mal. Et le pilote, j'ai trouvé plutôt efficace et bien foutu et pas neuneux comme certains ont pu le dire.
Non, c'est assumé girly parce que c'est drôle d'être girly et donc je vais être girly, quoi. J'ai le droit d'être girly aussi.
Et tout simplement, ça s'appelle un parti pris, voilà. Est-ce qu'il y aura Ben Affleck qui va apparaître dans Supergirl un jour?
Bah, écoute, Bradley Cooper est dans Limitless, moi je dis...
Oui, mais les producteurs de la série... Je crois que Ben Affleck a signé pour 7 films.
Excuse-moi, t'as déjà lu les trucs de des agendas de tous les films à venir
T'as un film de super-héros tous les 15 jours
En fait, le problème, c'est pas tous les 15 jours, c'est quand j'ai réalisé qu'ils annonçaient un film qui sortirait le jour de mes 40 ans. En fait, ça m'a vraiment fait peur. Enfin, la période de mes 40 ans.
Tu vois, ils l'ont déjà annoncé en fait.
Oui, c'est ça. Mais genre, il y a 2 ans, j'étais là. Mais j'ai pas. Comment ça, vous savez déjà quand ce sera quand j'ai 40 ans? C'est quoi cette horreur? C'est anxiogène à mort.
Je sais même pas où j'habiterai à ce moment-là.
Ben Affleck en Batman, on va en bouffer à peu près tous les films d'ici parce qu'il est dans.
S'il est très très. Si tout le monde déteste et du coup, ils s'en foutent qu'il ait signé pour 7. Hein.
Je sais pas parce que j'ai cru comprendre qu'il allait réaliser lui-même Batman en fait.
Oui, mais si tout le monde
Batman
déteste...
vit Superman,
oui,
il va être dedans.
Les gens, tout le monde déteste, ils arrêtent d'en faire. Hein.
Ouais. Il est dans Suicide Squad aussi.
C'est clair, j'adore Ben Affleck. Moi, je suis partante pour qu'il soit le meilleur Superman de toute la Terre.
Batman.
Je suis fanatique, fanatique.
C'est toujours Cavill qui est Superman.
J'ai dit Superman.
Ouais.
Donc, parce que pour moi, whatever. Et je ne suis pas seule, je tiens à dire que j'ai des soutiens dans mon entourage de gens qui sont à fond Ben Affleck.
Je suis toujours à fond Ben Affleck. Autant je ne donne pas sa chance à Ryan Reynolds Deadpool, mais autant Ben Affleck, je lui donne totalement sa chance malgré...
Une fois de plus.
Malgré Daredevil.
C'est pas parce que Ryan Reynolds est horrible dans Green Lantern. Je te rappelle que George Clooney est horrible en tant que Batman et c'est George Clooney. Je
veux dire, c'est horrible en George Clooney. Tu peux prendre le parallèle où Ben Affleck est horrible en Daredevil.
Oui, ça prouve bien que ça veut rien dire.
Oui, mais moi je trouve qu'en fait Ryan Reynolds c'est horrible dans tout, quoi. C'est pas juste Green Lantern, c'est que Ryan Reynolds ne devrait pas exister.
Oh non, mais tu vois, c'est ça, c'est cette négativity là.
Alors là, t'es en train de nier l'existence d'un être humain quand même.
Non.
Non, mais
à l'écran,
quand même.
Il ne devrait pas exister. Il fait ce qu'il veut après dans sa vie, mais à l'écran, il ne devrait pas exister.
Il paraît qu'il est vachement sympa en plus,
les
donc c'est vraiment vache.
Arrêter de le caster, point barre.
Franchement, là.
Donc j'avais dit que c'était un truc super héros, on était sur le positivisme, ensuite on a parlé de viol pendant 45 minutes.
Et Léa veut que quelqu'un n'existe pas.
En même temps, tu m'as appelé d'arpé, hein. Tu te démerdes avec ça.
C'est ma propre
Attends, mais je suis sidekick, quoi, sérieusement.
Mais non, mais c'est parce que c'était pas. Oh, ça va.
Donc, dans Batman, ça veut dire que j'ai une cape et un mini short. Tu m'excuseras, mais.
Tu t'es pas appelé Super Dom. C'était bien, non?
Ouais, mais sidekick, quoi.
It's the Dom, Super Dom. Bon, passons.
Je changerai pas mon nom Twitter.
Je voudrais quand même dire que Agents of Shield, c'est vachement mieux qu'avant. Et que J'espère que la saison 2 de Agent Carter sera...
Et que Gotham, on ne sait pas si c'était mieux qu'avant.
Et on ne veut pas savoir.
J'ai cru voir que ça s'améliorait. Mais en même temps...
Who cares? Je vois
depuis... C'est pendant le hiatus, c'est ça?
Non, mais je vois depuis le milieu de saison 1 que ça s'améliore. J'ai jamais
le milieu
vu.
De... Non,
moi, j'ai regardé du milieu de saison 1 à presque la fin de la saison 1.
Ouais, mais bon,
quand ça s'améliorait, entre guillemets.
En même temps,
merci,
on m'a aussi dit que Marvel et Agents of S.H.I.E.L.D. ça s'améliorait... Dès la saison 2,
je trouve que c'était moins pire que la saison 1.
Ah non, la saison 2 est plus intéressante. C'est pas encore ça, mais.
Non, mais attention, s'améliorer, c'est bien le problème. C'est comme quand je te dis la partie la plus intéressante de Green Lantern, c'est une interaction humaine entre Ryan Reynolds et Mary Cavill.
Et que. C'est une interaction humaine, tu vois, c'est des rapports humains.
Il y a une réplique très drôle, il y a un moment très drôle, et c'est Ryan Reynolds. Donc je dis la meilleure partie de Green Lantern, c'est un moment où Ryan Reynolds a une interaction avec un autre être humain.
Temps,
donc c'est
désolé.
Peut-être pas un mauvais acteur, et elle transforme pas après, ça par après, les points positifs du film.
J'ai c'est un super héros positif. Qui a une bague qui fait à peu près ce qu'il veut. Déjà, le concept de base est quand même super débile.
Et t'as vu ce qu'il en fait quand même, hein? De ce qu'il veut.
Non.
Bah, c'est-à-dire, il en fait rien.
D'accord.
Soyons
okay.
clairs.
T'as pas vu
la possibilité de tout faire, il ne fait rien.
Mais par contre, il y a un moment très drôle avec Blake Lively, justement, où il arrive en tant que super-héros en lui disant « Je t'ai sauvé, machin. »
Si ça, c'est pas gage de qualité.
Il parle 30 secondes et à un moment, il regarde et fait « Jack ?» ou je sais pas quel est son nom, et fait « Non, pas du tout. » Et fait « Non, mais c'est bon, on est sortis ensemble pendant des années, je te reconnais. » Tout ton masque, enfin, c'est toi. Et donc ça m'a fait beaucoup rire. Et j'ai gardé, c'est le seul souvenir que j'ai gardé du film.
T'as quand même un moment dans le dernier Supergirl où t'as vu l'avant-dernier ?
J'ai vu l'avant-dernier.
Quand... 4 se rend compte que...
Ouais.
Et là, tu te dis, ah, intéressant, l'épisode suivant, en fait, ils se servent de Martian Manhunter pour faire croire qu'il y a une Supergirl et qu'il y a je vais plus me souvenir de son nom, une Kara. Et tu vois les deux à côté. Ouais, mais là, putain, elles se ressemblent quand même vachement, quoi. Donc, j'y crois pas une seconde. Limite, au pire, c'est des jumelles, quoi, mais...
Mais c'est mon moment préféré dans L'œil, c'est Clark. Pour revenir au vrai Supergirl.
J'aime bien. Mon moment préféré dans Supergirl, c'est dans Lois et Clark.
Non, mais c'est le moment où quelqu'un dit à Lois, dans le futur, tu seras adulée, mais comme une figure hyper importante. La seule question que tout le monde se pose, c'est est-ce que t'étais débile ou tu le faisais exprès ? Et le gars fait pardon. Il dit attends, je vais te montrer. Il prend des lunettes. Et il met les lunettes. Il fait je suis Clark Kent. Je suis Superman. Et là, Lois fait. Et ce qui est génial, c'est qu'elle se sent très très conne effectivement à ce moment-là.
Là, le truc,
et c'est ça,
que...
c'est Lois et Clark, épisode 18, saison 2. Regardez-le, il est merveilleux.
Oui, mais là, t'avais pas vraiment les deux personnages l'un à côté de l'autre. Là,
Non, je te rassure, il y a un épisode de Lois et Clark où il y a Clark et Superman en hologramme juste à côté. Anyway, tout ça pour dire que malgré qu'en fait, ce que je trouve le plus remarquable, c'est quand même qu'on a un éventail hyper large de genres. Et de style.
Et de ton.
Ouais. Et de ton. Ouais. Et que c'est quand même. Donc, le prochain qui me dit ah, mais moi, j'aime pas les super-héros. J'ai lesquels ? Parce que.
Green Arrow, je crois. Green Lantern, je crois que tout le monde sera d'accord.
Je pense que c'est tout ce qu'on a à dire sur les super-héros. C'est quoi lequel votre préféré ?
Jessica Jones.
Non, mais.
En série existante ou super-héros empiriquement ?
Super-héros empiriquement.
Toujours de l'affection pour Batman.
Oh.
Je pense qu'il a besoin d'affection. Il est tout seul, garçon.
Moi aussi, je suis un peu dans la merde, en fait.
Moi, en fait, n'étant pas une fan de comics, c'est un peu délicat de répondre parce que j'ai que ce que j'ai eu au cinéma ou à la télé. Je vais dire que j'aurais une affection toujours très particulière pour les X-Men parce que ça a été mon introduction au monde des super-héros, quoi. Donc voilà.
Et moi, je donnerais la même réponse que la créatrice de Captain Marvel, qui est Lois Lane. Je m'en fous si c'est pas une super-héroïne. Elle est vachement cool. C'est une journaliste et elle est badass. Et voilà, Lois Lane est ma super-héroïne préférée. En fait, c'était un mensonge, jamais sûr c'était Buffy la vraie réponse, mais bon, j'essayais pour une voie d'éviter.
Elle est dans quel Cinematic Universe alors
Elle a pas besoin d'un Cinematic Universe.
Cinematic Universe, voyons.
Elle est chez Dark Horse, mon chéri, en comics, depuis un certain nombre d'années.
Et ça, c'est vrai, mais il n'y a pas encore de Dark Horse Cinematic Universe.
Ça ne serait tardé, c'est comme Image. Donc, sur ces bonnes paroles, on a terminé sur une note un peu bordélique, mais on espère que vous avez suivi, que vous avez surtout regardé Jessica Jones, que vous allez le faire parce que nous vous le conseillons chaudement. Et surtout, dites-nous, c'est qui vos super-héros que vous aimez, à la télé, ailleurs, les séries que vous suivez, que vous ne supportez plus.
Gotham, pardon, excuse-moi.
Merci pour cette conversation endiablée. Merci Dominique, merci Léa. Tu ne sais toujours pas quel est ton Twitter?
Léa8925
avec un H.
L-E-A-H 8925. Les 8924 premiers, t'es déjà pris.
Le Twitter de Léa, hâte, ne me trouvez surtout pas.
Elle ne vous répondra pas sur Twitter, je tiens à le dire, mais elle vous lira peut-être. Dom.
Hâte de Dom, I-T-S-Z-E-D-O-M.
Et moi, c'est Atielka, Y-A-E-L-K. Merci de nous écouter, merci de parler de nous. Et à la prochaine, en attendant, bonne série.
We feel the night is upon us. T'as une pub des cours Florent, c'est que des blancs, des grandes filles minces avec les cheveux longs raides et des mecs avec les cheveux hirsutes bruns.
Non, mais attends, moi, ce que t'as pas compris, c'est que les filles n'ont forcément que les cheveux longs et raides.
Regarde Léa,
pas les cheveux bouclés. Donc,
bah non, non, t'es c'est déjà bizarre.
Ben ouais,
bah quand voilà. Ça, ce sera le bonus d'un podcast. Je conseille à tous les auditeurs d'aller au prochain cérémonial et de faire Léa, Léa.